commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre, oui, mais quel livre? Eh bien, l'Oiseau des Lires est là pour vous aider à choisir. Alors, je vais d'abord vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Et le thème que j'ai choisi, finalement, pour cette émission, n'est pas particulièrement gai pour commencer l'année. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai envie de vous parler des prix littéraires, des prix lycéens. Je vais commencer par le prix Goncourt des lycéens, parce que finalement, ces prix Goncourt, le prix Renaudot des lycéens, sont toujours des livres très qualitatifs, très forts, que les lecteurs adultes suivent presque plus que le Goncourt des adultes. Parce que les lycéens, finalement, ont un choix très... par rapport à l'écriture et par rapport au sujet. Le prix Goncourt des lycéens cette année est Petit Pays de Gaël Faye. Gaël Faye qui a récolté plein de prix, qui était plus connu comme un rappeur et qui là nous raconte son enfance et nous plonge dans des faits qui se sont produits il y a quelques années au Rwanda. Le génocide. Donc lui vivait là-bas avec un père blanc et une mère hutu. Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué un jour dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents. On appelle ça les ethnies. Les hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits avec de gros nez. Comme Donatien, j'avais demandé. Non, lui, c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Protée, par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les Toits, les Pygmées. Eux, passons, ils sont quelques-uns seulement. On va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis, il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus. Ils sont grands et maigres, avec des nez fins, et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Toi, Gabriel, avait-il dit en me pointant du doigt, tu es un vrai Tutsi. On ne sait jamais ce que tu penses. Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça? Alors, j'ai demandé. La guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire? Non, ça n'est pas ça, ils ont le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue? Si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même dieu? Si, ils ont le même dieu. Alors, pourquoi se font-ils la guerre? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange, cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand-chose. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à regarder le nez et la taille des gens dans la rue. Quand on faisait des courses dans le centre-ville, avec ma petite sœur Anna, on essayait discrètement de deviner qui était Hutu ou Tutsi. On chuchotait. Lui avec le pantalon blanc, c'est un Hutu. Il est petit avec un gros nez. Ouais, et lui là-bas avec le chapeau. Il est immense, tout maigre, avec un nez tout fin, c'est un Tutsi. Et lui là-bas avec la chemise rayée, c'est un Hutu. Mais non, regarde, il est grand et maigre. Oui, mais il a un gros nez. C'est là qu'on s'est mis à douter de cette histoire d'ethnie. Et puis, papa ne voulait pas qu'on parle. Pour lui, les enfants ne devaient pas se mêler de politique. Mais on n'a pas pu faire autrement. Cette étrange atmosphère enflait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler. Et à tout bout de champ, on se traitait de Hutu ou de Tutsi. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire « Regardez, c'est un Tutsi avec son nez !» Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir. Donc Gaël Faye nous raconte son histoire, son enfance, la violence qui s'installe dans le pays, la tuerie. Plus tard, il va quitter le Rwanda, venir en France. Et c'est là qu'il devient Gaël Faye vraiment et qu'il a été beaucoup interviewé, il a beaucoup raconté ce qui lui était arrivé. C'est un très très bon roman que adultes et jeunes lycéens peuvent lire. Et j'ai voulu mettre en parallèle des choses qui ont aussi existé en littérature jeunesse. Il y a aussi...
Mon document, c'est la chose.
Bon. La mémoire en blanc d'Isabelle Colomba chez Thierry Magnier nous raconte aussi le Rwanda. Là, c'est raconté comme un polar, c'est-à-dire que on a Léonie qui est une jeune danseuse pleine de talent qui, en rentrant à Lyon, est poussée, bousculée pour la projeter dans le métro, la faire mourir en vérité. Elle reçoit des SMS de menaces et alors qu'elle se savait simplement adoptée, elle va remonter dans le temps et se rendre compte de ce qu'elle est aussi issue de cette violence au Rwanda. Donc des romans qui peuvent se répondre en adulte et en littérature pour jeunes adultes. Donc, je continue sur ce rapprochement entre littérature adulte et littérature ado, avec un roman d'Arnaud Catrine. Arnaud Catrine est un auteur qui écrit pour la jeunesse, mais qui écrit aussi pour les adultes. Et il nous a fait un roman très très fort, À la place du cœur, un roman qui nous plonge pendant les attentats à Charlie Hebdo. Mais c'est aussi un vrai roman pour adolescents, dans ce sens où ces ados vont vivre en direct ce qu'on a vécu, nous, en écoutant en permanence les informations sur ce qui se passait, en étant plongés dans cette horreur, en étant branchés en permanence sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passait. Et en même temps, c'est pour lui sa première vraie histoire d'amour. Donc on est dans la vie d'un ado qui, pour ses 17 ans, va enfin pouvoir faire l'amour avec Esther, son premier amour. Et puis, ils vont aussi écouter ce qui se passe. Ils ont une prof qui va discuter avec eux et essayer de leur faire comprendre que cette violence d'islamiste extrémiste n'est pas la réalité de l'islam, parce que dans la classe, il y a quelques arabes, il y a une petite islamiste qui ne comprend pas pourquoi elle est regardée comme cela. Et on a vraiment tout ce qu'on a vécu à travers les yeux de ces adolescents. Et à la fin, on a aussi une violence qui s'installe. Les fachos, les extrémistes, qui sont particulièrement violents avec un jeune arabe. C'est un roman qui nous prend aux tripes. C'est vraiment un roman à lire, que l'on soit adulte ou jeune adulte. Et on vient de recevoir un roman, Une belle équipe, de Grégory Reinberg, aux éditions Héliopole, qui est un roman pour adultes et qui nous plonge dans les attentats du 13 novembre. Un restaurant, La belle équipe, l'auteur est le responsable de ce restaurant et ce jour-là, il va perdre sa femme, celle qu'il aime, celle qui a mis au monde sa fille et de nombreux amis. Et c'est cet auteur écrit pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir dire l'indicible, pour revivre. C'est à la fois l'horreur des attentats, c'est aussi comment cet auteur va pouvoir annoncer à sa fille que sa mère a disparu ce jour-là. Voilà, de la même façon, roman jeune adulte, roman adulte qui se rejoignent. Voilà. Et je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous le représenter, de « Et mes yeux se sont fermés » de Patrick Barr, qui est un roman qui nous raconte l'histoire de Maëlle, devenue Aya, qui revient de Syrie. Et nous venons de recevoir un roman de Émile Frèche, « Je vous sauverai tous », qui est à la fois un roman, mais plus un témoignage quelque part. Ce sont les journaux intimes d'une mère, d'un père et de leur fille de 17 ans qui s'entrecroisent pour nous raconter les racines de l'embrigadement, l'horreur de ceux qui restent, l'horreur de ceux qui partent, les parents qui doivent accepter aussi le regard des autres. Donc c'est à nouveau des romans qui peuvent être lus à la fois par des adultes et par les adolescents. Et je vais terminer à nouveau par un prix littéraire, de ce fait, le prix Renaudot des lycéens, qui s'appelle « Giboulée de soleil ». Rien que le titre, déjà, il est super beau. Qui est un roman de Lenka Ornakova, Sivad, qui nous se situe en Tchécoslovaquie et qui nous raconte le destin de trois femmes qui sont de mère en fille, des filles mères, et qui, à l'époque où se situe le récit, est particulièrement mal vue. Donc Magdalena va quitter la ville pour venir vivre à la campagne avec sa mère, puisque sa mère ne peut trouver du travail que là. Elle accouche les jeunes femmes et en ville, mal vue par le fait qu'elle était enceinte, sans mari, elle n'aurait pas trouvé de travail. Ensuite, on suivra Libuse. Le roman se situe à ce moment-là dans les années camarades, où on a à la fois la vie de cette femme, de ces femmes, et en même temps l'installation du communisme, du partage. Elles doivent donner leurs vaches, leurs lopins de terre pour que tout soit mis ensemble. Et on a Eva aussi qui nous raconte sa vie. Donc on a toute une page de l'histoire de la Tchécoslovaquie à travers la vie de ces trois femmes avec les difficultés de vivre lorsque l'on est fille-mère et que l'on doit même épouser un homme que l'on n'aime pas, qui est violent, mais que l'on doit supporter parce qu'il faut se racheter comme on peut lorsqu'on a mis au monde des enfants sans père. Et pour être un peu plus optimiste, je vais rapprocher, et encore, ce roman d'un roman pour adolescentes, Esther de Sharon Mackay, qui est paru à l'École des loisirs, qui est un très très beau roman qui se situe au XVIIIe siècle dans le sud de la France. Esther est la fille légitime d'un marchand d'étoffes et sa famille a arrangé un mariage avec un chiffonnier afin de préserver sa réputation. Elle part sur un bateau pour rejoindre son chiffonnier. Le bateau fait naufrage et elle est parmi les disparus. Mais elle a été sauvée par un jeune marin, Philippe. Et elle décide de ne plus donner signe de vie et d'essayer de vivre sa vie. De vivre une vie qui, au début, n'est, ma foi, pas facile, puisqu'elle passe, elle est servante, elle est aussi repérée, parce qu'elle était très belle et très bien élevée, par une femme qui veut se servir d'elle pour être à la cour du roi, et elle décide de s'enfuir. Si elle devait quitter cette maison, c'est maintenant. Peu importait où elle irait. Ce qui importait, c'était de s'en aller. Malgré le peu de place qu'elle avait pour bouger, Esther parvint à atteindre la bourse qui était attachée à sa ceinture. À tâtons, elle sentit sous ses doigts le portrait et les 5 pièces. À 4 pattes, les oreilles dressées comme celles d'un chien, elle rampa hors de l'armoire, se leva, s'étira, puis se prit les pieds dans sa robe. Comment pourrait-elle s'échapper en portant une chose pareille? C'était trop léger, trop féminin dans la rue. Mais elle n'osait pas prendre le risque de retourner se changer dans son boudoir. Les lampes à huile avaient été éteintes. Cependant, des braises couvaient dans la cuisinière, donnant juste assez de lumière pour qu'elle voie autour d'elle. Elle découvrit les vêtements sur l'étagère en haut de l'armoire. Le butin de marmite. Esther, trouvant sous ses doigts une chemise de lin épais, les retira brusquement, comme si elle s'était brûlée. Oserait-elle? Pourrait-elle? Elle ressentit une décharge d'énergie semblable à un éclair. Maman avait dit qu'il fallait être courageuse, mais maman n'approuverait pas ce qu'elle allait faire. Elle ne pouvait y penser maintenant. Sa robe, son corset, ses sous-vêtements, de toutes sortes glissèrent sur le sol. Presque nue, elle tendit les mains et saisit un ballot de vêtements. Une jupe atterrit au-dessus du tas. Esther l'attrapa sans se soucier des trous ni de la mauvaise qualité du tissu. Elle enfila la simple jupe et la remonta jusqu'à sa taille. C'est alors que ses yeux tombèrent sur une culotte. Une culotte d'homme. Une fille ne peut pas travailler si on ne travaille pas, on ne mange pas. C'étaient les paroles de Philippe. Catherine aussi avait dit que les filles seules ne pouvaient pas survivre. S'enfuir en étant une fille lui attirerait des ennuis à chaque coin de rue. Et le jour où elle avait perdu Joseph, elle repensa au garçon qu'il avait acculé dans un coin pour lui faire du mal. Les hommes, eux, allaient et venaient à leur guise. Ils pouvaient travailler. Si elle pouvait devenir un garçon, alors elle serait en sécurité. Cette pensée était si parfaite qu'elle faillit s'exclamer. La jupe tomba autour de ses chevilles. Elle prit la culotte et l'enfila. Elle se sentit merveilleusement bien dedans. En deux temps, trois mouvements, Esther se retrouva dans une chemise et une culotte d'homme. C'est ainsi qu'Esther va pouvoir suivre une vie presque plus facile. Elle va embarquer, elle va se retrouver au Canada, où là, à nouveau, elle aura des soucis parce qu'elle est juive. Le Canada, à cette époque-là, la Nouvelle-France, n'acceptait pas les juifs. Elle sera renvoyée vers la France, mais avec une lueur d'espoir, puisqu'elle sait qu'il y aura une escale à son bateau et qu'elle pourra à nouveau s'échapper. Un très très beau destin de femme qui nous est conté là, une page d'histoire et un vrai vrai destin pour Estelle. Esther, cette juive devenue un garçon quelque temps. Et je vous laisse là aujourd'hui et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achète en librairie.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît...